bienvenue à ce nouveau cours MVA sur Windows 10 et plus particulièrement sur les éditions et les branches de mise à jour de Windows 10. Donc je suis avec Stanislas.
Bonjour Pascal.
Et on va vous parler dans ce cours de deux choses. Donc dans un premier temps des éditions, des différentes éditions et des différences qu'on va avoir entre ces différentes éditions de Windows 10. Et puis cette nouveauté majeure de Windows 10 qui concerne les branches de mise à jour et la gestion que vous allez pouvoir faire des évolutions de Windows 10. Donc si vous voulez plus d'informations sur une introduction générale des nouvelles fonctionnalités en général de pour l'entreprise de Windows 10, il y a déjà un cours MVA qu'on a fait récemment sur le sujet.
Les liens seront disponibles à la fin de ce cours, où on vendra l'ensemble des liens à retrouver pour vous former en français sur MVA.
Exactement, parce que rassurez-vous, il n'y a pas que la gestion des mises à jour dans Windows 10 qui a changé. Donc, commençons directement avec les différentes éditions de Windows 10.
Donc ça, c'est un exercice traditionnel qu'on a avec chaque version de Windows, de découper les versions et de les proposer à la vente sous différentes formes, différentes éditions. Donc, les éditions à retenir principalement, l'édition familiale, celle qu'on va pouvoir acheter dans le monde du grand public, celle qu'on aura à la maison, celle qu'on utilisera dans des PC personnels mais au travail, dans ce qu'on appelle le Bring Your Own Device, ou Bring Your Own PC, ça dépend. Mm-hmm. La deuxième édition, qui s'appelle la Pro, la professionnelle, historiquement qui existe depuis très longtemps, qui est plutôt orientée pour les petites et moyennes structures en termes d'organisation. Et puis l'édition entreprise, qui est faite pour les entreprises de taille moyenne ou de taille grande, et qui inclut fonctionnellement beaucoup plus de choses. On va voir un petit peu l'état dans tout cela. Donc, en gros, les méthodes d'achat vont également différer en fonction des éditions. Typiquement, la version entreprise s'achète en volume license, pardon. Alors qu'une édition pro ou une familiale peuvent s'acheter au supermarché du coin auprès de ce qu'on appelle un OEM, un constructeur. Et à noter du coup qu'en termes de mise à jour, si vous êtes aujourd'hui sur un Windows 7, un 8, un 8 ans, durant la première année de Windows 10, d'existence de Windows 10 en version finale, la mise à jour est gratuite, qu'on soit en édition familiale ou édition professionnelle, ce qui est intéressant peut-être pour les petites et moyennes organisations qui du coup peuvent faire évoluer leur parc de manière gratuite durant la première année où est disponible Windows 10. Ensuite, en fonction des éditions, les modes de mise à jour, de déploiement seront bien entendu différents, c'est-à-dire qu'un individu à la maison fera ses mises à jour via le mécanisme standard de Microsoft ou de Windows Update. Et donc sera toujours maintenu en état, on va parler tout à l'heure de Windows de service. Quand on sera dans une structure d'organisation, entreprise, on aura effectivement toujours le choix de faire du Windows Update pour des itinérants par exemple, mais on pourra également faire le choix de contrôler les mises à jour, soit au travers de choses qu'on connaît historiquement, Windows Software de Services. On pourra également utiliser un service qui s'appelle Windows Update for Business, qui sera donc un contrôle des mises à jour et de l'évolution de Windows, mais fait par l'IT. En termes de fonctionnalités, globalement, là encore, on aura une différence entre la version professionnelle et la version entreprise. La version entreprise disposera de plus de choses, on va le voir après dans des tableaux comparatifs, donc je ne rentre pas dans le détail. Mais la version entreprise bénéficie souvent d'apports fonctionnels qui se font en collaboration avec également les versions serveurs de Windows, qui sont le côté serveur des fonctionnalités. Voilà. Donc en général, pour avoir la totale, vraiment tout utiliser Windows à son potentiel maximum, il faut également avoir l'infrastructure serveur Windows derrière pour utiliser effectivement ces nouveautés.
Voilà. Donc, il est important de noter que la plupart des différences sur lesquelles on va insister aujourd'hui concernent les modes de déploiement, de maintenance. Et ça va être l'objet de notre deuxième partie, justement.
Voilà, on va plus se focaliser effectivement sur la version professionnelle et la version entreprise, qui sont celles qu'on va retrouver dans les organisations, au moins pour les PC qui sont gérés par les organisations. Les PC de type Bring Your Own Device, on rentre dans le mode familial, et la plupart du temps, en termes d'édition, donc on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus.
Exactement. Donc, au niveau de ce comparatif, on a un premier comparatif qu'on peut faire au niveau des fonctions de base qui existaient déjà dans les versions précédentes de Windows. Donc on a, par exemple, le chiffrement de l'appareil, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve dans toutes les éditions de Windows.
Fonctionnalité qui d'ailleurs n'a pas le même nom si on est en version professionnelle ou entreprise et version familiale.
C'est pour ça qu'en quatrième ligne, on a BitLocker, voilà. Qui est justement la version, c'est la même technologie, mais paramétrable. Voilà. Dans la version pro et entreprise, où on peut choisir les algorithmes de chiffrement, et les différentes méthodes de récupération des clés de chiffrement, de protection des clés de chiffrement. Donc ce qu'on appelle le chiffrement de l'appareil, en anglais device encryption, c'est une option qu'on a dans toutes les versions, qu'on a également d'ailleurs, et ça n'apparaît pas ici, mais on a également ça sur le téléphone, puisque Windows 10 mobile sera également basé sur le même moteur que Windows 10, donc on retrouve certaines fonctionnalités également. L'injonction au domaine, c'est classique, hein, depuis toujours. Seules les versions pro ou entreprise peuvent rejoindre un domaine Active Directory. Donc là, rien de nouveau là-dessus. Si on peut joindre un domaine, on peut se voir appliquer des stratégies de groupe, donc se voir gérer par des stratégies de groupe, donc pareil, à partir de la pro pour les stratégies de groupe. Les GPO, qu'on a coutume de le dire. Donc BitLocker, j'en ai dit deux mots. Enterprise Mode Internet Explorer, donc le mode de compatibilité d'Internet Explorer, pareil à partir de la version pro. Donc tout ceci, on retrouve les mêmes choses que dans Windows 8.1. Le mode dit accès affecté. Donc accès affecté, c'est une traduction littérale
du mode kiosque.
Du mode kiosque, qui en anglais, j'ai oublié le terme anglais, mais c'est la traduction littérale de accès affecté en fait. C'est un mode kiosque, effectivement, où on choisit une application moderne et on va configurer un profil utilisateur pour dire, dès qu'on s'authentifie sur ce profil, on utilise cette application et que cette application. On ne peut pas en sortir, etc.
On comprend du fait que son usage dans un scénario de type mode kiosque.
Voilà. Tout à fait. Le bureau à distance.
Donc ça, c'est de pouvoir se connecter à distance via le protocole RDP sur la station.
C'est un serveur RDP, puisque le client se retrouve sur les mêmes, sur toutes les éditions, le client RDP. Hyper-V. Donc Hyper-V est maintenant disponible depuis la Pro et l'entreprise. Donc c'est le Hyper-V client, c'est-à-dire la possibilité d'exécuter des machines virtuelles en local sur le poste.
En Direct Access, c'est une techno de connectivité distante basée sur différents protocoles, dont IPv6, et qui fonctionne là, typiquement, mais l'exemple, en collaboration directe en fait, avec des serveurs Windows derrière, une infrastructure de clés publiques, clés privées. Donc ça, exactement comme Windows 7 ou Windows 8 ou Windows 8.1, c'est une fonctionnalité côté client qui n'est disponible qu'à partir de l'édition ou qu'avec l'édition entreprise. De la même façon, si on parle de mobilité, on a la capacité d'exécuter le système Windows sur un média movible qui est une clé USB. On appelle ça Windows to go. L'outil pour créer et pour installer donc Windows en bootable sur une clé USB particulière compatible Windows to go n'est disponible que pour l'édition entreprise.
C'est l'assistant en fait, l'assistant classique graphique
de création.
De le faire. Ce qui n'est pas dit également, c'est que la clé USB, l'OS qu'on va mettre, déposer sur la clé USB pour faire du Windows to go, doit être une entreprise aussi.
Exactement. App Locker, ça permet de créer des listes blanches ou des listes noires d'applications qui ont le droit donc, ou pas d'être exécutées par l'utilisateur ou installées par l'utilisateur sur le poste client. Donc ça permet de faire des masters assez verrouillés dans des environnements qui le nécessitent. Verrouillage par signature, vérification des signatures numériques, par contrôle de l'éditeur qu'on a le droit d'installer, etc. Là encore, c'est une fonctionnalité qui fonctionne en collaboration, en conjonction avec la partie serveur. Enfin, il faut de l'Active Directory en gros derrière parce que c'est des paramétrages qui vont descendre par GPO pour la configuration. Donc App Locker disponible uniquement dans les éditions entreprises. Branch Cache également est une technologie qui permet d'accélérer les connexions au travers du WAN. Donc c'est un système de cache pour des contenus qui sont hébergés sur des sites intranet, je précise, de type HTTP, HTTPS ou serveur de fichiers SMB. Et l'idée, effectivement, c'est de faire un système de cache. Alors soit un cache qui est réparti entre pairs, c'est-à-dire plusieurs stations vont se partager des informations qu'elles ont déjà téléchargées, soit en utilisant un serveur dans une agence distante qui servira de serveur de cache, branch cache. Donc c'est de l'accélération WAN pour les protocoles SMB, HTTP, HTTPS. Et là encore, comme Windows 7, comme Windows 8, comme Windows 8.1, ce n'est disponible côté client que sur la version entreprise. Et ça nécessite en conjonction des serveurs 2008 R2, Service Pack 1 minimum, pour pouvoir utiliser la fonctionnalité sur les serveurs web et les serveurs SMB.
D'accord. Et puis enfin, donc le contrôle d'accueil, le contrôle de l'écran d'accueil avec la stratégie de groupe, c'est une fonctionnalité qui était très sensible, très critique avec Windows 8, Windows 8.1. On l'a reconduite dans Windows 10 et elle est toujours disponible uniquement pour la version entreprise. Donc elle permet elle vous permet, avec des stratégies de groupe, de définir exactement l'apparence du menu démarrer ou de l'écran d'accueil de Windows. Écran d'accueil pour les tablettes, donc, avec Windows 10. OK, donc voici pour les fonctions de base, qui sont les fonctions qu'on retrouve à l'identique, ou quasiment, avec Windows 8.1 et Windows 10. Donc maintenant, on a des nouveautés liées à Windows 10. Donc notamment, donc, si on passe les deux premières lignes, qui sont également des rappels dont on vient de parler, les fonctionnalités de gestion et de déploiement de Windows 10. Une nouveauté, c'est que le sideloading des applications modernes, qui était quelque chose de très critique également depuis qu'on a cette notion d'application moderne.
Très critique ou très critiquée ?
Ah, elle a été critiquée.
Ouais.
Et que c'est très critique aussi.
Voilà.
Cette notion d'application moderne avec ce mode de déploiement très particulier dit de sideloading. Le sideloading, je rappelle, c'est simplement la capacité d'installer une application moderne sans passer par le Windows Store. Donc on a les binaires de l'application, on veut la déployer sur des postes. Comment on fait ? C'est du sideloading. Il y a certaines conditions à remplir, certains procédés un petit peu particuliers. Cette fois-ci, avec Windows 10, la nouveauté, c'est qu'on peut le faire également sur les versions home ou familiales. Donc tous les Windows 10 peuvent faire du sideloading, ce qui est quand même intéressant. L'administration par MDM, donc toutes les fonctionnalités de gestion de type Mobile Device Management, gestion des périphériques mobiles. On pense à Intune, on pense également à nos chers concurrents
AirWatch
ou Mobile Iron, qui font du MDM et qui peuvent très bien gérer du Windows 10 comme du Windows 8.1. Et tout ceci est supporté sur toutes les versions de Windows 10, également le téléphone aussi, il ne faut pas l'oublier. La jonction à Azure Active Directory, donc c'est une nouveauté de Windows 10. On a dit tout à l'heure qu'on pouvait joindre un domaine Active Directory. On peut également joindre, avec un mécanisme un petit peu différent, Azure Active Directory, donc un domaine purement cloud. Ou également dans une stratégie cloud hybride.
Exactement.
On peut tout à fait joindre le domaine, l'entreprise via sa partie exposée dans le cloud. Donc ceci est supporté à partir de la version Pro, de la même façon que la jointure à un domaine Kerberos classique.
Je crois qu'il y a également une version, et on l'a pas mis ici parce qu'on est plus orienté entreprise, il y a une version éducation qui existe également de Windows 10.
Tout à fait.
Et la version éducation peut également se joindre à l'Azure Active Directory. La version éducation est très similaire à la version entreprise, en fait.
Exactement. Elle est à 99% identique à la version entreprise. Et en fait, dans deux lignes, on va citer une différence avec la version entreprise.
Le Business Store, Pascal ?
Donc, le Business Store, c'est une fonctionnalité qui va permettre aux administrateurs de l'entreprise de faire des achats en volume d'applications modernes dans le store de Windows, dans le Windows Store. Des achats en volume, des achats de type entreprise, c'est-à-dire payer avec des factures et non pas uniquement une carte bleue personnelle, etc. Enfin, on connaît les problèmes que vous avez eus avec Windows 8, Windows 8.1. Donc ces problèmes sont résolus avec ce Business Store et qui permet également un déploiement tout à fait personnalisable de ces fameuses applications modernes.
Alors, la ligne suivante est super intéressante. On est capable de mettre à jour une édition professionnelle et de l'upgrader en édition entreprise. Ça, c'est une chose que jusqu'ici, on n'avait jamais su proposer. Donc, ouais. Jusqu'à Windows 10, quand vous installiez une version professionnelle, vous n'aviez pas la capacité de la transformer en version entreprise. Parce que la version entreprise, en fait, était fournie sous la forme d'un fichier ISO, d'un DVD qui était une édition spéciale. Même si techniquement c'était très similaire, c'était un DVD, une installation séparée. Donc, c'est-à-dire que si on achetait par exemple dans le commerce un PC chez un constructeur qui est avec la licence Pro, et que dans l'entreprise, l'organisation utilisait l'édition entreprise, si on voulait bénéficier des fonctionnalités de l'édition entreprise, la seule chose à faire c'était de réinstaller from scratch le système complet. On n'avait pas de mécanique d'upgrade du système. Donc du coup, quand on a un système qui est bien installé avec les drivers du constructeur, etc., c'est pas très très agréable de se dire, en fait, tout ça sert à rien, je reprends le travail depuis le début, j'essaie de tout réinstaller proprement pour l'avoir en version entreprise. Désormais, il est possible de manière très très simple de switcher du mode pro au mode entreprise sans avoir à tout réinstaller.
Donc c'est l'objet de ma première remarque concernant Windows 10 éducation. Puisque dans la version Educ, cette même fonctionnalité se retrouve sous une forme un petit peu différente. C'est qu'on peut passer d'une version Home, familiale, à une version Educ. Donc ça se comprend, hein, dans le monde professionnel, on achètera plutôt des pros qu'on pourra faire migrer en entreprise, qu'on va transformer en entreprise. Dans le monde de l'éduc, on s'adresse plutôt à une population grand public qui achète plutôt des machines home. Donc on pourra migrer, transformer pardon, un poste home en éduc. Donc, première différence.
Tu n'en as pas tout à l'heure, mais on va le dire et le redire. Le contrôle du menu démarrer, le contrôle de l'écran d'accueil n'est disponible que sur l'édition entreprise.
Enterprise. Tout à fait.
Gros point, et ça vous avez probablement dû le voir si vous avez déjà vu des présentations sur le sujet de Windows 10, la sécurité. On a fait énormément de choses en termes de nouveautés dans la sécurité. Et là, alors, typiquement, en fonction des éditions qu'on va choisir, on ne va pas avoir le même niveau ou les mêmes fonctionnalités de sécurité. Est-ce que tu peux un petit peu nous détailler tout ça, Pascal?
Oui, alors en fait, Microsoft Passport, la première ligne, ça fait partie d'une initiative présente chez Microsoft qui consiste à essayer d'éliminer les mots de passe. Donc c'est une première avancée dans cette direction, d'éliminer les mots de passe qui, on le sait, posent problème à tout le monde.
Quand on dit éliminer le mot de passe, c'est éliminer leur utilisation sur le réseau où ils seraient interceptables principalement en fait.
Oui, et puis éliminer les problèmes du type j'oublie mon mot de passe, je dois mémoriser 25 mots de passe pour mes 25 services différents, etc. Donc on élimine les mots de passe avec un mécanisme de clé publique, clé privée. Donc techniquement, hein, on a un mécanisme où on a une paire de clés, publique-privée. La clé publique est connue du fournisseur d'identité, la clé privée.
Privé.
Et sur le poste de l'utilisateur protégé par le TPM, le matériel, etc., est débloqué par soit un code PIN, soit un geste biométrique. Donc c'est le fameux Windows Hello. Donc le doigt, l'empreinte digitale, la reconnaissance du visage, etc.
On a dû le marquer d'ailleurs dans le tableau Microsoft Passport / Windows Hello, car effectivement.
Ça va ensemble.
Ça va ensemble. Si on parle de biométrie, d'utilisation, soit de l'empreinte digitale, soit de la reconnaissance faciale, soit de la reconnaissance de l'iris, effectivement, c'est un mécanisme intrinsèque maintenant à Windows qui permet de déverrouiller justement ce conteneur sécurisé qu'on appelle Microsoft Passport, qui donc permet d'avoir accès aux clés privées.
Donc quand vous installez un Windows 10, vous verrez forcément à un moment Windows 10 qui vous dira « tapez un code PIN, donnez-nous un nouveau code PIN ». Ça, quand vous le verrez, c'est l'initialisation du passeport.
Voilà. Le code PIN permet d'ouvrir ce conteneur sécurisé et la reconnaissance biométrique est un moyen de remplacer ce code PIN par quelque chose de plus simple parce que c'est ce qu'on est. On est reconnu par son empreinte, son iris, etc. Du coup, on a plus effectivement un retenir de mot de passe. On pourrait presque dire que, pour une fois, la publicité sur Windows 10 est une vraie publicité où c'est pas du marketing. Quand on dit cet enfant n'aura plus à retenir ses mots de passe, techniquement, c'est pas faux. Voilà.
Ouais, c'est pas faux. On a testé pour vous, c'est pas faux. Les machines arrivent avec les caméras 3D intégrées
exactement
dans les lecteurs, dans les machines.
Et les lecteurs d'empreintes existent déjà depuis des années. Mmh. Et désormais, c'est plus une application à part ou un framework à part, c'est vraiment natif dans le système, l'utilisation.
Donc Microsoft Passport gère deux modes d'authentification, un mode personnel et un mode entreprise, en gros. Un mode personnel avec les comptes Microsoft. Votre adresse email de type Hotmail ou Live ou un truc comme ça. Et puis votre identité professionnelle avec votre email professionnel qui peut être dans Azure Active Directory ou dans Active Directory ou les deux. D'où les deux modes de Microsoft Passport. D'où le fait qu'il est supporté à la fois dans la version familiale qui ne fera que du personnel et les versions pro et entreprise qui feront les deux, qui pourront faire les deux. Okay. Donc voilà, quelque chose de très large et qui permettra de faire la guerre un petit peu au mot de passe. En tout cas, elle est dans cette direction-là. Une deuxième fonctionnalité de sécurité qui sera intéressante, c'est Enterprise Data Protection. Elle n'est pas encore dans la première version de Windows 10 qu'on connaît du 29 juillet 2015. Elle sera peut-être dans la deuxième version, la deuxième itération, disons. On en parlera juste après, justement.
Après, exactement.
Donc, Enterprise Data Protection, c'est une fonctionnalité qui permet de séparer d'isoler en fait tout ce qui est personnel de tout ce qui est professionnel sur un même poste.
Là, on parle de données d'application. En gros, des données ciblées ou taguées comme des données entreprises utilisées avec des applications entreprises, un courrier électronique par exemple dans l'application Outlook, ne pourra par exemple, par choix de politique, définition par l'IT, ne pourra pas par exemple être copié-collé dans une application grand public telle que,
Firefox
Ouais, Firefox avec un Gmail ou, je ne sais pas, l'application courrier qui est avec l'email personnel. Donc l'idée, c'est vraiment d'isoler les données et les applications entreprises des données et des applications, entre guillemets, personnelles ou privées. Voilà, le tout sur le même appareil. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, on essaie d'éviter d'avoir plein d'appareils, on fait tout sur le même appareil. Donc l'idée, c'est ça aussi.
Voilà, et puis c'est lié avec tout ce qui est Mobile Device Management, MDM, Mobile Application Management, MAM, pour la gestion de cette isolation. Donc réservé aux environnements professionnels, évidemment, puisque c'est somme toute très logique, hein, puisqu'il s'agit de séparer le monde professionnel du monde personnel, donc il faut avoir un monde professionnel, donc c'est pro ou entreprise.
Alors les deux prochains, eux, sont réservés uniquement à la version entreprise.
Oui, c'est un petit peu dommage, hein, il faut le reconnaître, mais ce sont des fonctionnalités très intéressantes pour l'entreprise, Credential Guard et Device Guard. C'est un pas supplémentaire vers la sécurité appuyée par le matériel, garantie par le matériel. Ça permet de protéger certaines parties très sensibles du système d'exploitation par une protection matérielle, par la possibilité des processeurs récents, avec leur technologie de virtualisation, d'isoler certaines parties de la mémoire et certains process de l'OS, de façon à interdire à un process, même s'il est administrateur, même s'il a tous les privilèges, lui interdire d'aller lire cette mémoire protégée, parce qu'elle sera isolée dans un container à part. Donc Credential Guard, c'est la protection de la partie du LSASS, si vous rentrez dans la technique, qui contient vos hash de mot de passe, par exemple, vos identifiants d'identification de Windows, qui sont pas mal attaqués, notamment dans des scénarios de type APT.
Pass the hash,
exactement. Donc l'idée, hein, c'est d'empêcher les process malveillants d'aller lire cette mémoire de LSASS qui contient des secrets, des hashes de mots de passe de comptes qui sont administrateurs parce qu'ils sont là pour gérer la machine, pour exécuter des services, etc. Et de les exploiter pour aller sur d'autres systèmes dans le domaine et dans le réseau d'entreprise.
On viendra dans le détail de toute façon sur ces technologies dans des cours ultérieurs.
Oui, tout à fait. Device Guard, c'est l'utilisation de cette même technologie d'isolation pour isoler cette fois-ci le code qui va garantir l'intégrité du code qu'on exécute dans Windows. Ce fameux code integrity qui nous garantit qu'on exécute que du code signé, que du code qui a telle origine, etc., qui vient de tel endroit. Le code qui va vérifier cette intégrité est protégé de la même façon par cette isolation matérielle.
Puis dernier point qui est assez nouveau, et c'est pour ça que ce sera un des modules de ce cours sur lequel on va passer du temps juste après, c'est les branches de maintenance de Windows 10. Donc on rentre dans un processus désormais où Windows va être un peu perpétuellement mis à jour, si je peux dire. Oui. Et du coup, ben, on sait que autant dans le grand public qu'il soit mis en permanence mis à jour, ça ne pose pas réellement de soucis, autant d'entreprises. Il y a peut-être des contraintes réglementaires, applicatives, de qualification, etc., qui font que les informatiques, les IT des entreprises doivent un peu contrôler cette mise à jour et ne pas laisser faire ça au fil de l'eau sans rien vérifier. Mmh. Donc, du coup, que ce soit les versions pro ou les versions entreprises, on aura le choix d'utiliser Windows Update for Business pour ce qu'on appelle les Current Branch of Business. Ah déjà, ça fait du terme.
Déjà,
c'est pour ça qu'on a fait ce cours-là, en fait.
Notion,
Donc, le contrôle de ces mises à jour et de ce changement de version au fil de l'eau sera contrôlable par l'IT, c'est la chose à retenir. C'est la différence entre une version familiale où il n'y a pas le choix et une version d'entreprise où, effectivement, on contrôle parce que c'est un environnement qui est géré. Et puis, dans certains cas qu'on détaillera tout à l'heure, mais pour des environnements qui ne doivent pas trop bouger, peut-être parce qu'ils sont critiques, peut-être parce que l'applicatif est très sensible derrière, peut-être raison X, Y ou Z, on aura également un Long Term Services Branch, donc le LTSB, qui lui sera réservé uniquement aux éditions entreprises, qui sera d'ailleurs, au passage, on le redira, sur un média séparé pour l'installation, et qui correspondra un petit peu aux choses qu'on peut connaître dans le monde Linux, par exemple, avec Ubuntu, où effectivement on a des éditions qui restent stables pendant un certain temps. Ça s'appelle d'ailleurs chez Ubuntu
LTS.
LTS, voilà, donc on est quasiment pareil, donc du long term servicing. Donc là, on a rajouté le B, nous, derrière, c'est plus riche, un acronyme en quatre lettres. Long term service branch.
C'est un AQL au lieu d'un ATL.
Ok, je cogiterai à ça plus tard. Donc, du coup, maintenant, parlons un petit peu de ces fameuses branches de mise à jour Pascal dans ce deuxième module.
On en parlera dans un deuxième module, effectivement.